Bonjour à toutes et tous. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode du podcast de Moodstep où nous explorons le savoir-être au travail et notamment dans le management. Tous les semaines, nous recevons un invité pour explorer différentes facettes de ce savoir-être et de cette connaissance de soi. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Corinne Brunet qui est coach et consultante et nous allons parler ensemble des intelligences atypiques. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur et votre hôte pour ce podcast. Retrouvons tout de suite Corinne. Donc je suis chez toi Corinne, c'est une toute nouvelle formule puisque d'habitude je fais ces interviews par internet. Et on va parler aujourd'hui des profils atypiques. Et je disais à l'instant, on pourrait aussi dire les intelligences atypiques.
Les sensibilités atypiques, les fonctionnements intellectuels et relationnels atypiques.
Ok. Et avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours ?
J'ai commencé ma carrière dans la publicité. J'y cherchais un environnement culturel, varié, artistique, ludique. Donc cette expérience a duré une dizaine d'années et puis je me suis rendu compte que ça répondait pas tout à fait à mon besoin de faire des choses qui ont du sens. J'ai évolué vers les ressources humaines par le biais d'une passerelle, c'est-à-dire que j'ai fait d'abord du recrutement qui est classé dans les métiers ressources humaines tout en étant malgré tout un métier de conseil qui se rapprochait de ce que je faisais dans la publicité. Donc depuis 97, j'accompagne des personnes en mobilité professionnelle, qu'elles soient en recherche d'emploi ou pas, de différents univers, de différentes tranches d'âge.
Mais comment tu as fait le pas en 97 ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses ce changement ?
Je me suis rendu compte que je me levais sans trop savoir pourquoi. J'avais l'impression de ne pas faire un métier utile. J'avais l'impression un petit peu de ne servir à rien. À l'époque, je travaillais pour Cofinoga, donc je vendais du crédit à la consommation. Ça me semblait être absolument inutile. J'avais vraiment besoin de faire quelque chose qui me semble utile, quelque chose qui soit utile aux gens.
Mais comment t'es passé de Cofinoga à savoir ce que tu pouvais faire d'utile pour les autres et qui corresponde à ton profil ?
J'ai pas mal cherché. Dans la communication, les ressources humaines ne sont pas très développées, donc j'avais pas une très très bonne idée de ce qu'étaient les ressources humaines. Mais j'ai enquêté. J'ai rencontré par le biais d'amis, j'ai rencontré des responsables ressources humaines, des DRH. Comme ça, à tâtons, je savais que je voulais travailler autour de l'humain. Dans un premier temps, je me suis orientée dans la stimulation des forces de vente. Comme ça, je restais dans la pub, mais plutôt au service des forces de vente. Et puis, je me suis dit que c'était une fausse nouvelle piste et qu'il fallait vraiment aller jusqu'au bout. Et donc, tenter les ressources humaines. Voie dans laquelle je n'ai pas d'ailleurs été encouragée, parce que la plupart des gens me disaient « Mais enfin, tu vas repartir à zéro. Comment tu peux abandonner un salaire et des responsabilités en marketing pub pour redémarrer à zéro dans les ressources humaines. Mais j'étais sûre.
Mais donc, comment tu pouvais être sûre ? Parce que ça repose sur l'instinct, là. C'est pas un choix cartésien, on pourrait dire.
J'étais sûre parce que lorsque j'ai fait 2 ans de recrutement pour me rapprocher des ressources humaines, je me suis rendu compte que le plus intéressant pour moi n'était pas de trouver le bon candidat pour l'entreprise, mais de préparer chaque candidat que je rencontrais à réussir en entreprise. Quand on travaillait en agence, on changeait tous beaucoup d'agences. Donc j'ai eu beaucoup d'entretiens de recrutement, beaucoup de phases de recherche d'emploi. Et j'avais une expérience de ce qu'était la recherche d'emploi. J'avais une expérience de la façon dont les recruteurs posent des questions et la façon dont ils se font une idée. Donc j'avais ce vécu-là. Et puis c'est aussi beaucoup de bon sens, hein, la recherche d'emploi. Je suis arrivée avec ce bagage-là. Puis après, bien sûr, j'ai été formée, quand je suis rentrée chez Courtauld, j'ai été formée tout de suite au bilan d'orientation, bilan de compétences et à l'accompagnement des cadres en recherche d'emploi.
Et comment t'en es arrivée à ce sujet des profils atypiques ?
J'ai accompagné des cadres de profil atypique dès le mois de janvier 2000, mais sans le savoir. J'avais repéré qu'il y a des personnes avec lesquelles on ne peut pas dérouler la méthodologie habituelle, des personnes qui ont soit une logique, soit une sensibilité qui nécessite de faire un peu différemment. Dans ces personnes-là, bien sûr, il y a tous ceux qui ont un problème de dépression ou d'alcoolisme, bien évidemment. Mais il y en avait aussi d'autres qui ne semblaient pas avoir de problème de ce type et qui pourtant avaient un fonctionnement différent. J'avais remarqué que c'était des salariés qui préparaient énormément nos entretiens, qui s'intéressaient à beaucoup de choses, qui avaient un besoin de variété et des intérêts très divers. Certains d'ailleurs avaient des parcours non linéaires avec des métiers différents. La plupart avaient des soucis avec la hiérarchie tout en étant des gens qui atteignent leurs objectifs, des gens qui ont la culture du résultat, des gens qui ont un grand souci de qualité. Et je me disais, ça c'est intéressant qu'on puisse à ce point agacer la hiérarchie en étant finalement sur le papier irréprochable. Donc, bon, j'avais repéré ça, mais sans mettre de nom dessus et sans faire tellement de pont d'ailleurs entre les fonctionnements. Et puis, lorsque j'ai fait ma formation au coaching d'équipe en 2008, je pense, 2007 ou 2008, c'est mon prof de coaching d'équipe qui m'a posé quelques questions, puis m'a demandé si un jour j'avais passé les tests. Je lui ai dit non, j'ai cherché à en savoir plus. À partir de là, il m'a conseillé pas mal de lectures, pas mal de bouquins. Et puis en discutant avec lui, je me suis rendu compte que effectivement, c'était des profils que je comprenais très bien. Et c'est là que j'ai pris conscience que le premier que j'avais véritablement accompagné dans son parcours professionnel, eh bien notre collaboration avait débuté en janvier 2000.
Donc tu t'es reconnu comme un profil atypique et c'est là que tu as pu mettre les mots sur ces gens que tu avais repérés qui étaient un peu...
Oui.
Alors, donc, tu as décrit un peu, derrière profil atypique, on peut dire que ce sont des surdoués, ce qu'on appelle aussi communément des surdoués.
C'est ce qu'on appelait des surdoués. Je crois que plus on avance et moins on arrive à les nommer. C'est ce que Jeanne Siofachin a appelé les zèbres. Ils sont appelés HPI dans certaines entreprises.
HPI, pourquoi ?
Haut potentiel.
Et le I ?
Intellectuel. Ils ont plusieurs noms, c'est pour ça que c'est pas très simple. Quand on dit surdoué, la plupart d'entre eux ne se reconnaissent pas en tant que tels. Surtout ceux qui n'ont pas passé le test et qui peuvent avoir la preuve en quelque sorte. Et même parmi ceux qui passent le test, d'ailleurs, certains considèrent que ça n'a pas de valeur, que ça ne... donc atypique me semble être le mot le plus adapté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le fonctionnement que l'on trouve chez 70 ou 80% des salariés en entreprise.
Du coup, quel est ce fonctionnement si je veux peut-être m'auto-diagnostiquer comment je reconnais chez l'autre et chez moi que je peux être un de ces profils atypiques ?
Alors, il y a plusieurs caractéristiques. Chez la plupart, il y a un grand sens des valeurs, un grand sens de l'éthique. Avec même un certain agacement quand dans leur environnement ces valeurs et cette éthique ne sont pas respectées. Il y a un sens moral, mais qui est plutôt discret, ce ne sont pas des croisés, hein, ils partent pas en guerre contre les gens qui ne fonctionnent pas comme eux, mais ils repèrent assez vite les hiatus ou les incohérences ou les dysfonctionnements et ils se trouvent très, très agacés, voire exaspérés, et même en quelquefois du mal à le cacher, quand dans une réunion, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait la vérité ou qui n'est pas tout à fait cohérent. Donc il y a d'abord peut-être ce sens des valeurs. Il y a toujours une grande curiosité, avec quelquefois une dimension artistique, mais pas toujours. En tout cas, une grande curiosité des personnes, des sujets associés à une recherche de complexité quelquefois. Ce sont des salariés qui ne sont pas très doués pour prendre la suite de quelqu'un qui a commencé un projet.
Mmh.
Donc, variété des contacts, variété des sujets, variété des problématiques, complexité des problématiques, ça, c'est des choses qui les caractérisent. Ils sont effectivement, donc comme je le disais, plus à l'aise à gérer un projet de A à Z qu'à intervenir ponctuellement sur un bout du projet ou prendre la suite de quelqu'un sur le projet. Ce sont des salariés qui ont un grand besoin d'autonomie, de fonctionnement, pas d'indépendance, d'autonomie de fonctionnement. Là où ils sont les plus performants, c'est quand on leur dit « voilà quelle est la ligne de départ, voilà quelle est la ligne d'arrivée, voilà quelles sont les règles, voilà quelles sont les limites et les moyens ». Et à partir de là, lorsqu'ils peuvent gérer leur temps, gérer les moyens, organiser les moyens, c'est là qu'ils sont le plus performants et le plus rapides. Il y a, je l'évoquais tout à l'heure également, souvent une difficulté avec la hiérarchie. C'est pas un rejet de la hiérarchie, mais une certaine exigence vis-à-vis de la hiérarchie et une difficulté avec une hiérarchie qui serait très contrôlante parce que précisément, leur fonctionnement n'est pas un fonctionnement par étapes traditionnelles.
Mmh.
Ils arrivent au résultat, eux-mêmes ne savent pas toujours comment. En tout cas, ça n'est pratiquement jamais, à moins de se forcer, jamais en suivant les étapes que peuvent suivre quelqu'un qui a un fonctionnement préférentiel à gauche.
Pourquoi tu dis à gauche ?
Parce que les atypiques...
Tu parles de la gauche, le cerveau, c'est
le
ça ?
Le cerveau gauche.
Mmh.
Les salariés de profil atypique fonctionnent de préférence avec le cerveau droit. Donc ça donne une vision globale, ça donne un résultat qui émerge, mais ils ne savent pas toujours comment. Et c'est ensuite pour convaincre qu'ils en viennent à essayer de reconstituer une approche ou une méthode pour convaincre. Mais le résultat leur apparaît, je ne vais pas dire spontanément, mais sans qu'il y ait véritablement une méthode.
Une analyse avec
ouais.
Point A, point 2.
Ouais. Ouais.
Quels sont les risques pour les profils atypiques en entreprise ? Quelles difficultés ils rencontrent ?
Alors, il y a une première difficulté qui est cette relation à la hiérarchie ou même aux autres. C'est-à-dire que même s'ils obtiennent de très bons résultats, même si la plupart du temps les clients sont extrêmement satisfaits, le fait de ne pas fonctionner comme les autres génère de l'inquiétude ou de la jalousie. Par exemple, ils peuvent, entre guillemets, ne rien faire pendant une semaine et puis travailler le dossier deux jours avant l'échéance. Mais cette apparente... des contractions, l'air qu'ils ont de ne pas travailler, n'est pas une réalité. C'est vrai qu'ils ne sont pas le nez sur la feuille en train d'écrire des lignes ou sur le clavier, mais tout ça mûrit, ils ont vraiment un fonctionnement en arborescence. Donc les différents aspects du projet cheminent dans leur tête jusqu'à ce qu'ils soient prêts à mettre les choses noires sur blanc.
Mmh.
Donc pour quelqu'un qui ne fonctionne pas comme ça, qui va les 10 jours qui précèdent
potasser
de 7h le matin à 7h le soir, compiler des infos, revoir sa copie, etc., ça peut être agaçant de voir quelqu'un qui semble ne rien faire pour, en 2 jours, sortir un document extrêmement précis, complet et super bien présenté.
Mais bon, ce sont pas des super-héros non plus.
Non, c'est pas des super-héros, c'est juste un fonctionnement différent qui fait qu'ils ne peuvent pas, eux, se mettre derrière le clavier dès qu'on leur donne le sujet.
Mmh.
Il y a un temps de maturation qui est différent. Donc, ils peuvent susciter des jalousies parce qu'ils ont de bons résultats en donnant l'impression de moins travailler. Ils peuvent aussi beaucoup agacer parce que, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'en réunion, ils ne peuvent pas s'empêcher soit de grimacer, soit carrément de s'exprimer parce que le sujet, c'est pas exactement comme ça qu'il devrait être présenté, ou toute la vérité n'a pas été dite, ou il y a des acteurs qui ont été oubliés. Ça agace beaucoup celui qui présente, qu'il ait ou non un lien hiérarchique.
Mmh.
Lorsqu'une réunion n'est pas structurée, ordonnée, ils s'ennuient, donc ils vont gribouiller, envoyer des textos ou je sais pas quoi. Donc il y a tout un tas d'attitudes qui semblent être des attitudes non respectueuses, qui semblent être des attitudes non sérieuses, enfin, qui sont traduites comme ça, qui font que ils suscitent de la jalousie par rapport à leurs résultats, ils suscitent de l'agacement par rapport au fait qu'ils ne traversent pas dans les clous.
D'accord. Donc ça, ce qu'ils rencontrent dans comme difficulté, donc c'est dans leur relation aux autres, est-ce que les autres renvoient ou ferment...
Les autres comprennent, c'est ce que les autres comprennent de D'accord. leur fonctionnement.
Et maintenant, alors, quand on a un surdoué dans son équipe, quels peuvent être les avantages et comment faut-il travailler avec eux ?
Il faut leur donner de l'autonomie de fonctionnement.
D'ailleurs, j'ai dit surdoué, pardon. Profil atypique.
C'est important de leur donner des informations du contexte, de l'environnement. Ce sont tous des gens qui ont besoin de faire des choses qui ont du sens. Du sens pour eux, mais aussi du sens pour l'entreprise. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont généralement au sens du collectif. Je n'en ai jamais rencontré, il y en a peut-être, je n'en ai jamais rencontré qui roulent pour eux. Ce ne sont pas du tout des individualistes, ce ne sont pas des personnes égocentrées, ce sont des gens qui sont toujours au service du collectif. Mmh. Et ça, c'est aussi une source d'incompréhension pour des gens qui ne sont pas comme eux, c'est qu'on ne peut pas imaginer qu'ils dépensent autant d'énergie de manière, entre guillemets, désintéressée pour le collectif. Donc, pour répondre à ta question, un manager qui aurait dans son équipe des profils atypiques, il faut les utiliser, entre guillemets, du moins il faut profiter de leur créativité, parce que ce sont des personnes qui sont capables de découvrir des voies différentes, des façons de travailler différentes, pas pour le plaisir de la nouveauté, mais parce que ils auront détecté ou ils auront vu ailleurs quelque chose de plus efficace et de plus rapide.
Ce qui est étonnant, c'est que donc tu parles du collectif, tu travailles pour le collectif, mais oui. en même temps, ils sont atypiques et quelque part un peu séparés
oui.
du collectif. Comment ils rallient ces deux notions ensemble parce que ça peut se transformer en souffrance, non ?
Parce
qu'on n'est pas compris.
Il y a de la souffrance à chaque fois qu'ils sont mis de côté. Or, ils sont souvent mis de côté parce qu'on ne les comprend pas bien, parce qu'on les jalouse, ou simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Donc, quand ils sont mis de côté, ça génère beaucoup de souffrance. Ça se traduit souvent par une charge de travail supplémentaire. Enfin, ils s'investissent encore plus. Ils rament pour essayer de prouver leur contribution, leur bonne foi. Donc, chaque fois qu'ils sont mis à l'écart, c'est compliqué pour eux.
Donc, ce serait peut-être un conseil, c'est-à-dire dans une équipe, de vraiment être attentif à ce qu'ils soient inclus ou qu'ils se sentent inclus.
Ouais. Ouais.
Quel conseil tu donnerais à un profil atypique pour gérer aussi ses émotions, pour gérer son inclusion dans un groupe, sachant qu'il va peut-être se sentir rejeté à certains moments de sa vie ?
J'en rencontre de nouveau, pas toutes les semaines, mais au moins un par mois. La première chose, c'est d'avoir conscience de cette différence et précisément en quoi elle consiste. Donc, avoir conscience de la manière dont eux fonctionnent, dont les autres fonctionnent, de manière à adapter leur communication. Le premier conseil, c'est ne pensez pas que tout le monde fonctionne comme vous. Mmh. Ils le savent plus ou moins. Mais ayez conscience de votre différence, ayez conscience du fonctionnement de la majorité, de façon à ne pas tout dire, et de façon à trouver des façons de faire. Par exemple, quelqu'un qui s'ennuie en réunion, plutôt que d'ostensiblement dessiner ou d'envoyer des textos, je leur propose des petits exercices, ou je leur propose d'observer justement... quels sont les jeux relationnels dans la salle. Donc, j'essaie de, chaque fois qu'ils sont en public, chaque fois qu'ils sont exposés, de les amener à concevoir, à réfléchir à des choses à faire, pour ne pas ostensiblement faire autre chose.
S'auto-stimuler, en fait.
Oui. Mais il y a une... ils s'ennuient, donc ils ne peuvent pas rester assis sur une chaise 3 heures en s'ennuyant. Mm. Donc, il est impératif de trouver... un échappatoire, de trouver quelque chose d'intelligent à faire pour qu'ils n'aient pas l'impression de perdre leur temps. Sa perception à lui des réunions, souvent, c'est qu'elles ne sont pas suffisamment structurées, pas suffisamment efficaces, pas suffisamment préparées. Mmh.
Mais maintenant, entre un profil atypique que tu décris là, qui a une intelligence qui fonctionne autrement, mmh. et on entend parler aussi beaucoup des hypersensibles, tu fais une différence ?
Alors, je ne sais pas ce que sont les hypersensibles. Ouais. Les atypiques sont des hypersensibles. Mais j'en ai rencontré qui s'étaient vraiment barricadés et qui s'étaient coupés de leur sensibilité. Mais ça, c'est une autre de leurs caractéristiques. Il y a une grande sensibilité qui leur sert à capter tout un tas d'informations. Cette hypersensibilité, elle leur permet dans un phénomène d'empathie, de percevoir notamment ce que veut le client ou comment le client reçoit le message. C'est souvent des salariés qui sont très très appréciés des clients parce qu'ils ont cette capacité à capter la demande derrière la demande ou même ce que le client n'a pas réussi à mettre en mots et qui est son besoin réel.
On parle d'intelligence émotionnelle.
Oui.
Donc une grande intelligence émotionnelle.
Grande intelligence émotionnelle. De l'autre.
Mais est-ce que, parce que dans l'intelligence émotionnelle, il y a aussi reconnaître ses émotions et savoir les réguler, on va dire.
Ouais.
Est-ce que le profil atypique a cette capacité-là? Parce que s'il n'a pas reconnu son atypisme, est-ce que il n'est pas un peu baladé par ses émotions?
Alors, les profils atypiques qui ne le savent pas, enfin qui ne l'apprennent que tard, ont développé une grande adaptabilité. D'abord pour s'adapter au système scolaire, pour ceux qui ont réussi, et puis après en entreprise. Donc ils sont tous très adaptables. Quelquefois d'ailleurs, ça coûte cher. Hein. Quelquefois, ils s'adaptent jusqu'à en être malades. J'en ai rencontré plusieurs. Les émotions, c'est un... Ben ça peut être un outil que de pouvoir ressentir les choses et les situations, mais en fonction de l'environnement culturel, familial dans lequel ils ont grandi, l'expression des émotions, la gestion entre guillemets des émotions, elle est variable.
Mmh. Ok.
Mais c'est sûr que c'est un atout que d'apprendre à les reconnaître et à faire avec. Et à les exprimer ou pas.
Et toi, aujourd'hui, donc, tu vas en entreprise et tu repères ces profils atypiques?
Non. Lorsqu'une entreprise me fait intervenir, que ce soit en conseil ou en coaching, je découvre quelquefois que un certain nombre de salariés ont un profil atypique ou pas. Mais aucune entreprise ne m'a... Ah non, c'est pas vrai. Il y en a une. Non. Il y a un gros cabinet conseil d'ailleurs, dont l'une des responsables ressources humaines connaît bien ce type de profil et me les envoie quand elle en découvre, parce qu'elle sait que je sais faire.
Donc tu accompagnes ces profils atypiques?
Oui.
Est-ce que c'est un accompagnement adapté?
Oui, c'est un accompagnement
atypique lui-même.
Exactement, qui est complètement adapté, et même là, qui est adapté à ceux qui se savent atypiques depuis l'adolescence ou l'enfance, et à ceux qui se sentent différents sans savoir pourquoi.
Et est-ce que, parce que ce serait intéressant quand même que dans l'entreprise, on puisse repérer ces profils, parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu des bombes humaines. Dans certains cas, qui peut faire exploser l'équipe parce qu'ils vont être un peu trop cash ou ils vont être un peu trop...
Parce qu'ils remettent en question la hiérarchie. C'est ça qui fait quelquefois exploser le groupe ou l'équipe.
Voilà. Donc, ils peuvent être d'une certaine manière dangereux pour l'équipe.
Ouais.
En même temps, ils peuvent être un grand atout pour l'équipe quand leurs compétences particulières et leurs talents sont reconnus. Il serait bon aussi d'avoir des gens qui puissent scanner un peu les repérer pour... Est-ce que c'est quelque chose qui aurait de l'intérêt?
Moi, j'ai toujours peur, quand on fait ça, de stigmatiser. J'ai toujours peur de mettre des étiquettes. C'est un petit peu...
Donc, c'est pas, faut pas forcément que ça se sache.
Ben, c'est un peu comme avec le 360. Je l'ai vécu moi-même et je l'ai vu, des entreprises dans lesquelles on fait passer le 360 et puis après chacun est dans une case et pour peu que on soit dans la même case que quelqu'un qui vous apprécie pas, ça devient problématique. Donc je me méfie toujours un petit peu des étiquettes. Alors ce qui est bien d'ailleurs, c'est que la nouvelle génération Y, là, ce qu'on appelle la génération Y, se rapproche du fonctionnement des atypiques. Et du coup, ça fait une passerelle, je trouve, entre ce qui fonctionne cerveau gauche et les atypiques qui fonctionnent plutôt avec le cerveau droit. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intéressant et que ça va certainement faciliter la cohésion d'équipe en ayant quelques personnes de la génération Y.
Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet dont on n'aura pas parlé parce qu'on arrive au bout de l'entretien ?
Ce que je veux rajouter, c'est que ce sont souvent des salariés qui sont limités dans l'entreprise parce que ils ont du mal à accéder à des postes de comité de direction. Ils ont du mal à accéder à des postes de direction précisément parce que les directeurs perçoivent cette différence et craignent qu'ils ne soient pas comme eux.
Mm.
Et donc, y a moyen de faire autrement, il y a moyen de se faire accompagner pour dépasser cette limite. Mais j'observe beaucoup de cas où l'entreprise limite l'évolution des cerveaux droits sans savoir de quoi il s'agit, mais limite l'évolution de gens qui sont différents.
Bon, bah, espérons que tout ça s'ouvre et qu'ils puissent trouver leur place, quoi.
C'est possible, le tout c'est d'être accompagné et de définir aussi la place qu'ils veulent occuper. Parce que certains pendant des années luttent pour avoir une place qui leur semble être une place bien rémunérée, une place intéressante, alors qu'en réalité dans leur propre système de référence, la place qui leur conviendrait le mieux c'est une place différente.
Il faut la créer cette place différente.
Il faut déjà en avoir conscience. Il faut l'imaginer et puis après ça peut être une histoire de négociation, mais il est plus facile d'offrir quelque chose à l'entreprise que d'essayer de rentrer dans une place qui n'est pas faite pour soi.
Mm.
Donc là on peut aussi faire preuve de créativité et d'être force de proposition pour dessiner un poste qui soit davantage...
Ah, mais ça veut dire que c'est encore une remise en question de l'organisation des entreprises et de leur capacité à changer, à évoluer.
Aujourd'hui, elles n'ont plus le choix de toute façon. Hein. Mmh. Aujourd'hui, elles avancent bon gré, mal gré. Toutes ne sont pas prêtes à ouvrir des postes différents, mais elles y sont malgré tout de plus en plus rapidement contraintes.
Puis on y vient, puis avec les nouvelles générations aussi,
ouais,
qui ont
ça.
D'autres modes de fonctionnement, tout ça va très vite, j'ai l'impression quand même.
Oui, puis la génération Y, elle est quand même déjà bien active là, déjà. Mmh. Tous en poste, donc non, l'entreprise va être obligée, mais... Quoi qu'il en soit, ça vaut toujours le coup de dessiner le poste entre guillemets idéal, enfin en tout cas de définir une posture et de la proposer à l'entreprise. C'est quand même ce qu'il y a de plus confortable et pour l'entreprise un vrai atout.
Pour faire ça, il faut quand même arriver à un niveau de connaissance de soi assez important, c'est-à-dire avoir déjà vu nos fonctionnements différents,
oui.
Pouvoir peut-être, c'est pas le bon mot, conceptualiser, mais savoir de quoi on a besoin,
oui.
Pour être en enthousiasme, de quoi...
C'est essentiel de connaître ses motivations.
Ben oui, mais...
Essentiel.
Mais ce travail-là, aujourd'hui, dans la société, même à l'école ou dans nos études, rien n'est le tuteur de ça. Donc il faut le faire par soi-même,
oui.
En cherchant.
En cherchant ou en repassant les différentes expériences que l'on a eues et en repérant les ingrédients qui font qu'à une période, on était particulièrement bien dans un poste.
Mais est-ce que tout le monde a été particulièrement bien dans un poste ? Je sais que je vais loin, mais
je pense,
tu me dis,
je pense
on
qu'il
peut
y a...
très bien, si on a mal vécu d'avoir ce profil-là, qu'on va dans une voie qui ne nous correspond pas, mais parce qu'il faut que... et que, justement, on se trouve nul et qu'on n'a pas conscience qu'on a ce profil atypique, il est très difficile de faire ce diagnostic, de prendre du recul, de savoir ce qui nous met en enthousiasme et de construire un job. Donc, ça demande un vrai cheminement personnel. Et pour l'instant, les clés, c'est à nous d'aller les chercher, quoi.
C'est vrai que c'est difficile de s'auto-analyser. C'est pas impossible, mais pas facile. Je pense que là il faut se faire aider, surtout pas avec des tests qui sont encore une fois enfermants, mais plutôt avec un bilan de compétences approfondi ou un mentor qui va porter un regard extérieur sur un parcours et sur les moments les moments du parcours professionnel où on s'est senti particulièrement enthousiaste, porté, optimiste.
Oui, d'ailleurs, mais ça se trouve dans la vie de tous les jours, on trouve ces moments où
absolument.
On était en enthousiasme et en optimisme. Donc,
mais il m'est arrivé de ne trouver ces éléments de motivation qu'en dehors de la vie professionnelle chez certains.
Mm. Mais c'est déjà intéressant, c'est des indices.
Tout à fait.
Ouais. T'es prête pour le questionnaire ?
Ah oui, le questionnaire.
Tu croyais que t'allais y échapper parce qu'on avait rallongé. Mais non, 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 c'est pas un truc qui marche. Au bout des 30 minutes, bim, ça s'arrête. Ils disent, ah bah écoutez, joker. Non, il n'y a pas de joker. Donc la première question, j'aimerais que tu nous racontes une histoire, tu vois ce que je veux dire ? Une histoire personnelle qui parle de ton meilleur échec ou un de tes meilleurs échecs. Et surtout ce que t'en as appris, comment ça t'a fait grandir.
Le plus récent, c'était une journée de coaching d'équipe. L'entreprise m'avait demandé une journée alors que par rapport au sujet, il aurait fallu 2 jours. Donc j'étais limitée dans le temps. On avait convenu du coup de commencer à 8h le matin pour finir à 19h pour véritablement avoir le temps de traiter le sujet. Or, dans cette journée, il y a eu tout un tas de complications. D'abord, il pleuvait énormément, ce qui fait que la plupart des participants sont arrivés en retard. C'est le directeur général qui devait ouvrir la session, donc il est arrivé lui aussi en retard. Il ouvre la session et alors qu'il devait revenir à 18h30 pour la clôture, il m'annonce qu'il faut faire la clôture à 17h parce qu'il avait une réunion derrière. Donc non seulement j'avais 1 heure de moins le matin, j'ai commencé 1 heure en retard, mais j'avais 1h30 le moins le soir. Et là, j'ai commis l'erreur de ne pas, malgré tout ça, faire un tour de piste pour vérifier les attentes de chacun des participants et surtout pour vérifier que le programme que j'allais proposer correspondait bien à leurs attentes. Je me suis permis de ne pas le faire parce que d'habitude, la DRH envoie ce programme à tous les participants. Là, elle ne l'avait pas fait, bien évidemment. Donc, la journée s'est très bien passée. Bon, évidemment, très fatigant pour moi parce que j'étais super serrée dans le timing et je voulais absolument que les participants repartent avec de la matière. Et je me suis rendu compte que le programme qu'avait validé le DG ne correspondait pas du tout aux besoins des participants. Donc, j'ai fait le grand écart pour essayer de contenter tout le monde. Et puis, en fin de journée, donc, les participants ont dit qu'ils étaient très contents, le DG a dit qu'il était très content, et je suis restée après avec la DRH pour ranger la salle. Et à ce moment-là, il y a 2 ou 3 participants qui lui ont fait le reproche d'avoir annoncé une journée de formation alors qu'il s'agissait d'une journée de coaching d'équipe. Ce qu'elle a très très mal vécu parce qu'elle l'a vécu comme un reproche. Et je considère que c'est un échec parce que mon boulot, c'est évidemment de répondre à la commande d'une équipe et d'un PDG, mais aussi à celle de la DRH. Or là, par manque de temps, je me suis permis de zapper une phase qui est très importante et qui fait que, même si tout le monde était content, moi, j'étais pas satisfaite à la fin de la journée d'avoir laissé penser que l'on profitait du budget formation pour faire passer quelque chose d'utile, mais qui n'était pas de la formation.
Alors du coup, qu'est-ce que tu as appris de ça ?
Eh bien, que j'ai le temps ou pas le temps, je prendrai toujours, toujours la demi-heure ou les 20 minutes nécessaires en début de journée pour vérifier que tout le monde adhère à ce qui a été décidé, pas par eux, mais à ce qui était décidé pour la journée ou pour les journées de formation. Avec le risque qu'ils n'y adhèrent pas, et donc de devoir, moi, statuer entre la commande d'origine et le besoin des participants. Mais ça, c'est le rôle du coach d'équipe.
Ah, merci, c'est très concret. J'aime beaucoup.
C'est...
Parce que ça peut s'appliquer à beaucoup de choses, même en tant que manager, dans les réunions.
C'est le cadre.
Ouais,
le cadre.
De toujours bien poser le cadre.
C'est la première chose qu'on apprend quand on est formé au coaching. Et là, je me suis permis de...
Et t'as compris pourquoi on vous apprenait ça, quoi.
De ne pas poser le cadre. Oui, je l'avais compris en coaching individuel, parce qu'un coaching individuel peut patiner, peut ne pas avancer si on n'a pas posé le cadre. Et ça me semblait évident. Là, j'étais en confiance avec la DRH. Il m'avait pris 2h30 dans ma journée.
Alors on passe à la deuxième question, qui est, est-ce qu'il y a une technique qui t'a particulièrement marqué dans ta vie personnelle ou professionnelle, ou un outil?
Les deux outils qui m'ont fait avancer, c'est la formation de coach. Une formation très, très structurée, très exigeante.
Où est-ce que tu t'es formée?
Je me suis formée chez Media Coaching, et l'école vient de fermer. Donc, Donc voilà, mais j'étais formée chez Media Coaching. Ça, c'est la première... C'est la première formation qui a complètement remis en question mon approche de consultante, et qui a coloré même aujourd'hui mon rôle de conseil. Et le deuxième outil, c'est la ProcessCom, qui est une formation, elle, qui est toujours dispensée, qui m'a permis justement de mettre encore plus de mots sur la différence de motivation d'un individu à l'autre. La question fondamentale qui anime une personne va impacter toutes ses actions et ce pourquoi elle les fait.
Mais je suis étonnée que tu me donnes cet outil, puisque avant on a parlé de justement des cases. Ou ouais. Des... Est-ce que la ProcessCom n'enferme pas dans des cases?
Non. D'abord, dans la ProcessCom, il y a 7 cases.
Enfin, on peut peut-être expliquer vite fait ce qu'est la ProcessCom. Pas facile.
Non, c'est pas facile. La ProcessCom permet d'identifier ce qui anime une personne dans sa communication, ce qui l'anime dans ses besoins fondamentaux, mais aussi là où elle en est dans sa vie. Et ce que j'aime dans la ProcessCom, c'est qu'il y a 7 niveaux que l'on peut parcourir ou pas au cours de sa vie. Le premier niveau, c'est celui avec lequel on est. Et puis, les autres niveaux sont des niveaux que l'on peut parcourir au fil de l'évolution, au fil de ce que l'on vit. Donc, il n'y a pas d'enfermement.
Pas de case, oui.
On peut bouger, et puis même s'il y a des caractéristiques communes, ce ne sont que des façons d'avancer, de communiquer et de se positionner dans la vie. Ça n'est pas enfermant.
D'accord. Donc ça t'a aidé à mieux comprendre les autres, la ProcessCom?
Ça m'a aidé à approfondir justement le travail sur les motivations. Tu parlais de motivation tout à l'heure, et c'est fondamental, pas que pour les atypiques. Et justement, dans la ProcessCom, il est beaucoup de questions de motivation, de ce qui motive chacun dans sa relation à l'autre, dans sa communication et dans la façon dont il travaille. Donc au-delà de donner des clés pour communiquer avec tout le monde... Ça a beaucoup nourri mon intérêt pour la partie motivation de chaque personne.
Ok, merci beaucoup. Alors ensuite, j'aurais aimé savoir, j'ai été remise en question sur cette question lors d'une précédente interview, donc
oui.
J'ai du mal à la poser, mais...
Lance-toi.
Oui, selon toi, quelle est la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Eh bien, la motivation. Non, non, moi, cette question, elle me va, parce que je pense que c'est une vraie question. Il y a des managers qui veulent être exemplaires, d'autres qui focalisent sur le développement de leurs collaborateurs. Mais je pense que quel que soit le type de manager, la principale, peut-être, qualité, c'est de creuser le sujet des motivations. D'abord parce qu'on ne fait pas avancer tout le monde de la même façon, parce que tout le monde n'a pas les mêmes intérêts pour les chiffres ou pour les clients. Donc, arriver à identifier ce qui motive chacun de ses collaborateurs, je trouve que c'est certainement la principale clé pour bien manager.
Waouh, mais ça, c'est... Comment on repère? Alors, on va pas repartir sur une autre interview, mais je dis oui, là, il y a... Ok, qu'est-ce qu'on utilise comme outil? Qu'est-ce qu'on fait pour repérer la motivation des gens de son équipe?
Alors, la première chose, c'est déjà de bien penser que tout le monde fonctionne pas comme soi.
Parce que... Ce qu'on oublie fréquemment.
Mais oui, et c'est ce que je rencontre, chez les managers, hein, qui souvent pensent que toute l'équipe fonctionne comme eux. Alors, l'outil le plus simple, c'est le questionnement. Souvent, les managers oublient que le salarié, il vient pas forcément bien poser sa question, bien poser son problème. Et plutôt que de se précipiter sur une réponse ou pour essayer de lui apporter tout de suite des éléments de réponse, il faut questionner. Qu'est-ce que tu as déjà essayé? Pourquoi tu me poses cette question maintenant? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le principal point qui t'empêche d'avancer? Etc., etc. Il y a tout un questionnement qui permet de trouver le réel point de blocage ou la réelle demande du salarié. Et là, déjà, on a des éléments de motivation.
Ça veut dire que le manager se pose en position de coach?
Davantage. Plutôt qu'en position de sauveur. Beaucoup de managers se précipitent sur une réponse. Mais comme souvent le salarié n'a pas posé la bonne réponse, la bonne question, pardon, eh bien, c'est difficile d'apporter la bonne réponse. Et le sujet des motivations, il est derrière ça. Parce qu'il y a des salariés qui vont avoir pour motivation de faire un travail parfait, d'autres de faire un travail rapide, d'autres de tout faire. Donc, on a des motivations extrêmement différentes et le manager peut, au fil des rendez-vous, au fil des années, arriver à détecter les motivations de chacun de ses collaborateurs par le questionnement. Et non pas en supposant qu'il a à cœur de faire ça et ça. Non, non.
D'accord.
Questionner.
Ben merci beaucoup, tu réhabilites cette question que Stéphane Diotre avait mis par terre. Merci à lui, au passage.
Non, moi je trouve qu'elle est...
Non mais c'est marrant parce qu'en fait avec la même question on a des réponses tellement différentes.
Sûrement.
C'est toujours étonnant.
Ouais.
Maintenant j'aimerais savoir si tu as un livre à nous conseiller à la lecture.
J'en ai deux. C'est possible ?
Vas-y.
Alors, le premier pour les personnes atypiques, c'est le livre de Carlos Tinoco, qui s'appelle « Intelligent, trop intelligent », qui fait le parallèle entre haut potentiel et cerveau droit. Il est plus particulièrement adapté à ceux qui ont un fonctionnement de cerveau droit, mais rien n'interdit à un manager de
comprendre aussi ce fonctionnement.
Exactement. C'est pas le plus pédagogique. Mais c'est le plus intéressant, c'est le plus analytique. Mais je trouve que c'est le plus utile, le plus complet.
D'accord.
Et puis, un deuxième livre peut-être justement sur les motivations. Alors, sur les motivations, il faut se faire sa propre bibliothèque parce qu'il y a à la fois plein de livres et aucun en particulier. Mais lire sur les motivations permet déjà... d'identifier qu'on n'est pas tous animés par les mêmes intentions et par les mêmes priorités. Donc, notamment « La vérité sur ce qui nous motive » de Daniel Pink. Mais voilà, celui-là est bien, je pense qu'il y en a d'autres. J'en ai pas trouvé un qui emporte vraiment mon adhésion sur les motivations, mais en tout cas, c'est un sujet qui fera l'objet d'une autre interview.
Ok. C'est un rendez-vous. Et dernière question, est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire ?
Celle qui m'inspire le plus, et depuis un moment, c'est celle de Lao Tzu, qui dit « Lorsque je me laisse aller à être ce que je suis, alors je deviens ce que je pourrais être. » Et elle est particulièrement adaptée à des profils atypiques, qui ne se laissent pas, qui ne s'autorisent pas à être ce qu'ils sont.
Voilà. Fabuleux.
C'est Lao Tzu.
Je mettrai Lao Tzu et les livres et aussi le où on peut te retrouver sur internet en description de ce podcast sur iTunes et sur mon blog. Où est-ce qu'on te retrouve justement sur internet? Est-ce que tu as un site internet ou est-ce que tu as un moyen que tu préfères comme LinkedIn ou Twitter ou je ne sais qui?
LinkedIn sans souci, un site internet aliceconseil.com qui dans sa deuxième version est en train de
d'éclore.
Exactement, la deuxième version sera bientôt en ligne, mais enfin l'ancienne fonctionne déjà très bien, donc effectivement la deuxième version laissera plus de place aux atypiques, mais tout ce que je fais est déjà bien présent sur la première.
Ben, merci beaucoup, merci de m'avoir reçu chez toi.
C'est
charmant
plaisir.
Chez toi. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine.
Et oui, la semaine prochaine pour une nouvelle émission, pour continuer à explorer la connaissance de soi, ainsi que l'intelligence collective, tout ce qui nous permet de mieux travailler ensemble. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez trouver un lecteur SoundCloud qui se partage facilement sur le blog de Moodstep, moodstep.com, ou directement via iTunes, où vous pouvez noter le podcast ou laisser un commentaire. Ça aide à rendre ces émissions plus visibles. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite une excellente semaine jusqu'à ce qu'on se retrouve. Bonne journée.